Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour, je suis Grégory Barbier, voici les grands crimes de l'Est. Aujourd'hui, je vous parle de la vie scandaleuse de Meg, liée à deux morts, dont celle d'un président de la République. Marguerite Steinhein, enfant de Beaucourt, près de Belfort, est mêlée à deux affaires en ce début de XXe siècle. La mort du président de la République Félix Faure et l'assassinat de sa mère et de son mari. 16 février 1899, Salon Bleu, Palais de l'Élysée. Un prêtre a été convoqué d'urgence. Félix Faure, dont on dira plus tard qu'il fut plus célèbre par sa mort que par sa vie, se meurt. Avant d'entrer, l'homme de Dieu demande au planton « Le président a-t-il toujours sa connaissance ?»« Non, mon père. Elle vient de sortir par une porte dérobée. » Le brave garde pensait que le curé parlait de la maîtresse du président de la République. Il ne savait pas que les sacrements diffèrent, surtout les derniers, selon qu'on est conscient ou non, lors de cette ultime visite. La rumeur publique crut d'abord que sa compagne des derniers instants était Cécile Sorel, actrice célèbre du moment. On saura 10 ans après qu'il s'agissait de Marguerite Steinhein, née Japie, dite Meg, épouse du peintre Adolphe Steinhein, auquel avait été confiée une commande officielle. Marguerite Jeanne Japie est née le 16 avril 1869 à Beaucourt, dans le territoire de Belfort, dans une riche famille. Elle est en effet la fille d'Édouard Japie, industriel protestant devenu rentier. Enfant, elle étudie le piano et le violon et elle fait ses grands débuts dans le monde en 1886 en participant à des bals de garnison. Elle s'éprend alors d'un jeune officier, liaison à laquelle son père met un terme. En 1889, elle part pour Bayonne chez sa sœur aînée afin de se changer les idées. Elle y rencontre le peintre Adolphe Steinhein, neveu du peintre Meissonier. Elle le retrouvera plus tard à Biarritz, où il exécute des fresques pour la cathédrale. Et le mariage a lieu le 9 juillet 1890 au temple protestant de Beaucourt. Elle aura de lui une fille, Marthe, mais bientôt la mésentente s'installe au sein du couple qui évite le divorce, mais vit désormais sans intimité. Parallèlement, Meg devient une figure importante de la vie parisienne. Son salon, situé à un passe Ronsin, est fréquenté par une pléiade d'artistes et de grands bourgeois. On y retrouve Gounod, Lesseps, Massenet, Copé, Zola ou Loti notamment. Son mari, peintre de style pompier, profite du succès de sa femme. Les commandes affluent. Ce 16 février 1889, le président Félix Faure téléphone à Marguerite et lui demande de passer le voir en fin d'après-midi. Quelques instants après son arrivée, les domestiques entendent un coup de sonnette et accourent. Allongé sur un divan, le président râle, tandis que sa maîtresse réajuste ses vêtements en désordre. Félix Faure meurt quelques heures plus tard. Dans les jours qui suivent, le journal du Peuple avance qu'il est décédé d'avoir trop sacrifié à Vénus. Le président est en fait mort d'une congestion cérébrale. 9 ans plus tard, Meg est mêlée à une autre étrange affaire. Le 30 mai 1908, Madame Japie, sa mère, vient passer quelques jours chez elle. Initialement prévu le soir, le départ est reporté au lendemain à la dernière minute. À 6h du matin, le domestique, Rémi Couillard, descend de sa chambre située sous les combles et découvre toutes les portes du premier étage ouvertes. Parcourant les chambres, il découvre successivement Madame Japie, puis Adolphe Steinhein, mort. La première est décédée d'une crise cardiaque, le second a été étranglé. Marguerite est bâillonnée, ligotée sur son lit. Elle expliquera aux policiers avoir été attachée par 4 personnes, 3 hommes et une femme, en habit noir. On pense alors qu'il recherchait des documents secrets ayant appartenu au président Faure, sans doute en rapport avec l'affaire Dreyfus. Les services de police soupçonnent tout de même Marguerite, mais faute de preuves tangibles, l'affaire est classée. C'est Meg, elle-même, qui relancera l'enquête en glissant dans une poche de Rémi Couillard, son domestique, une perle qu'elle affirma s'être fait voler par les 4 assaillants. Démasquée, elle cherche à faire accuser Alexandre Wolff, le fils de sa gouvernante, mais celui-ci a un alibi. Durant l'enquête, elle ne cesse de varier dans ses versions, accusant une personne à la place d'une autre. Le 4 novembre 1908, le juge d'instruction, M. Lédet, ordonne qu'elle soit arrêtée et emprisonnée à la prison de Saint-Lazare. Le procès s'ouvre le 3 novembre 1909. L'entrée de la veuve, coquettement vêtue de deuil, fait sensation. Elle prend place en une pose étudiée au banc d'infamie, commente l'impartial de l'Est. Et ses répliques fusent pendant tout le procès. « J'ai menti pour protéger ma vie de femme. » Jusqu'en 1905, vous rencontriez vos amants à l'hôtel ? J'avais cette délicatesse. Pendant l'audience, très suivie par les journalistes, on apprend que Marguerite Stanyheil a énormément d'admirateurs, parmi lesquels le roi Sisowat du Cambodge. La presse lorraine le souligne. Sur intervention expresse de M. Pichon, ministre des Affaires étrangères, le président a réservé quelques places aux membres du corps diplomatique désireux de contempler la veuve rouge. Pour aujourd'hui, l'ambassadeur de Perse est présent. L'opposition va tenter de faire de cette affaire un procès politique et accuse Madame Stanyheil d'avoir empoisonné Félix Faure pour le compte du syndicat juif parce que le président s'était déclaré hostile à la révision du procès Dreyfus. Le 14 novembre 1909, après une plaidoirie fleuve de son avocat, Meg est finalement acquittée. S'il est aujourd'hui acquis qu'elle n'est pas la meurtrière de son époux et de sa mère, on s'interroge encore sur l'identité du tueur. Selon certains historiens, il pourrait s'agir d'un grand-duc de Russie, l'affaire ayant été étouffée pour raison d'État. Après son acquittement, Meg va vivre à Londres sous le nom de Madame de Sérignac. Elle y rédige ses mémoires en 1912 et devient, 5 ans plus tard, Lady Abinger en épousant Robert Brooke Campbell Scarlett, 6e baron Abinger. Ce dernier est mort en 1927. Et elle décède le 18 juillet 1954 dans une maison de repos à Hove, dans le comté du Sussex, de sa belle mort. C'était les grands crimes de l'Est. Cette histoire, la vie scandaleuse de Meg, a été écrite par Jérôme Estrada et elle est tirée du livre 100 ans de faits divers aux éditions Est Républicain. Écoutez-nous sur toutes les plateformes de podcast et à bientôt pour d'autres affaires.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.